Le sport en Ille-et-Vilaine, c'est sur Radio Laser.
On va parler tennis de table, handisport et JO en vue des Jeux de Paris 2024. Et nous sommes en compagnie de Michèle Sévin, ancienne championne olympique en para-tennis de table. On va maintenant s'intéresser à votre parcours professionnel en dehors des Jeux Olympiques, notamment votre parcours associatif. Vous êtes encore aujourd'hui, il me semble, vice-présidente du comité handisport d'Ille-et-Vilaine.
Déjà, quand j'ai commencé le sport, donc je vous ai dit en 78, donc l'année suivante, j'ai été sollicitée pour intégrer l'équipe dirigeante du club de Rennes dans le bureau. Et puis, bon voilà, les années passant, on y met le petit doigt et on y rentre tout entier, ça va très vite. Donc j'ai aussi eu l'occasion d'être présidente du club de Rennes pendant de nombreuses années. Et en 84, parce qu'à l'époque, il n'y avait que deux clubs handisport sur le département. Donc on n'avait pas jugé forcément nécessaire de créer un comité départemental qui les regroupe. Ça fait une strate de plus. Et puis il a fallu quand même en créer un, donc on l'a créé en 84, donc j'étais vice-présidente, j'en avais laissé le président de Saint-Malo prendre la présidence du comité, et 4 ans après il a souhaité s'en aller, donc de 88 à 2019 j'ai pris la présidence, donc ça fait 31 ans, voilà. Et je continue parce que le président qui a été élu juste derrière moi, bon, connaît des soucis de santé, donc je continue. Et puis on a aussi des salariés, donc voilà, il y a plein de choses à faire, quoi. L'arrivée des salariés dans le comité, donc comme je vous disais, quand on a créé le comité, il y avait deux structures qui proposait des activités sportives aux personnes en situation de handicap moteur ou sensoriel. Actuellement, il y en a 20. Pas toutes de même importance. La plus grosse structure, c'est la structure du club de Rennes. Mais ça s'est quand même bien développé. On a des clubs qui proposent une activité et d'autres qui sont multisports. Voilà, on a un petit peu tout ça. Donc, le comité coordonne... Enfin, non, chaque club gère ses activités, mais on est là et en soutien avec les salariés, on peut proposer différentes actions. Aujourd'hui, par exemple, on propose une action, on fait découvrir le sport à plusieurs personnes qui ont une pathologie bien précise, qui jusque-là n'en pratiquaient pas. Donc, on pourra peut-être après aller les voir. Mais... Donc voilà, c'est et le comité, on est un petit peu le lien entre les clubs, les adhérents de base, les licenciés de base, et puis les instances représentatives que sont le département, le mouvement sportif, donc le CDOS, etc. Et puis un des échelons par rapport à toute la hiérarchie de notre fédération, puisque tout en haut on a la fédération, c'est structuré comme les autres fédérations. Tout en haut, la fédération, qui est multisport, bien sûr. Ensuite, on a un comité régional, comité départemental et les clubs de base. C'est la structuration classique.
Et vous menez des actions, du coup, pour permettre à tous de pratiquer une activité sportive?
On encourage la pratique, l'activité physique pour le maximum, on va dire. Il y a très peu de handicaps qui ne pourraient rien pratiquer, on va dire. Il y a des pratiques adaptées quand même, y compris pour des handicaps très lourds. Donc on encourage, nous, la pratique. C'est une des missions des salariés du comité de pouvoir proposer ce genre d'activité et faire en sorte que le maximum de personnes aient une activité physique. Alors on n'est pas dans ce que l'on propose, on n'est pas sur le volet spécifique compétition. On propose de l'activité physique, on fait découvrir les choses. Si on a une personne qui vraiment est intéressée par une activité et veut la pratiquer en compétition, on va la guider, on va l'orienter vers le club le plus proche où elle trouvera tout au moins à lui correspondre ce qu'elle recherche, etc. Et puis, on n'est pas dans la dynamique spécifiquement compétitive. Et d'ailleurs, en handisport comme ailleurs, parce que pour côtoyer quand même pas mal de monde, on s'aperçoit quand même qu'actuellement, on est plus vers une tendance loisir dans la plupart des clubs. Mais il en reste quand même pour la compétition. Et le volet compétition, ça correspond aussi à la vitrine de l'association, quelque part. Quand on a des bons résultats, c'est un petit peu la vitrine aussi.
On a tendance à dire que le sport, ça permet de maintenir le lien entre les personnes. Est-ce que c'est surtout le cas pour les personnes en situation de handicap qui peuvent avoir tendance à être isolées par rapport au reste de la société ?
Je dirais que c'est encore plus important pour ces personnes-là d'avoir une activité. Je dis bien pas forcément de compétition, mais de venir régulièrement côtoyer du monde, faire des choses. Et puis l'activité physique, on a quand même besoin de bouger. On est pas mal orienté actuellement. Enfin, on en entend beaucoup parler de ce que l'on appelle le sport santé. Donc bouger. Ben voilà. Ben il faut. On a des praticiens et autres qui nous y encouragent aussi. Mais bon, c'est aussi notre philosophie de proposer des activités qui font que les gens sortent de chez eux, côtoient du monde. Ça favorise le lien social et puis c'est super quoi. Enfin c'est mieux que de rester isolé dans son coin. Regardez ce qui va se passer.
Et comment vous allez chercher les personnes qui sont justement très isolées ?
Alors on ne peut pas aller chercher tout le monde. On peut pas. D'abord on n'a pas accès à un certain nombre de fichiers qui pourraient être tenus par différentes instances qui sont en lien avec les personnes en situation de handicap. On a des demandes qui nous arrivent directement, je dirais. On a aussi les salariés, notamment, assurent des permanences dans un certain nombre d'établissements qui accueillent des personnes handicapées. Donc, ça va être les centres de rééducation, ça va être le service rééducation du CHU, ça va être Ré-le-Roux un petit peu, à la Bouexère, on a le Patifro. Enfin, on a différents lieux qui accueillent des personnes en situation de handicap et on est en lien avec ces structures. Et donc, il y a des permanences d'assurés on peut aussi concevoir que sur l'ensemble des personnes handicapées, certaines, c'est comme pour les valides, hein, elles vont avoir envie de faire de la musique plus que de faire du sport. Ça se respecte, voilà. Mais on essaye de procéder ainsi. Ce que je n'ai pas évoqué non plus, c'est qu'on essaie, quand on parle des évolutions, de faire changer le regard sur le handicap. Et donc, on organise régulièrement des actions de sensibilisation. Alors là, c'est plus le travail des salariés où on va dans une école, dans un centre de loisirs, quelquefois dans les entreprises, où on met les personnes dans une situation de handicap. Donc on va les mettre sur un fauteuil roulant, on va les mettre en situation de déficience visuelle, on a des bandeaux, tout ça, enfin bref. Et ça permet de faire évoluer aussi le regard. Et comme maintenant on a un certain nombre aussi sur le volet scolaire, de jeunes qui peuvent suivre leur scolarité en milieu normal. Et bon, quelquefois, on peut en croiser sur nos interventions. Et puis, on fait passer notre message comme quoi le sport est très important. Et voilà. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre handisport et sport adapté.
Non.
Sport pour personnes en situation de handicap est géré par deux fédérations. On a la fédération handisport qui va gérer les personnes ayant un handicap moteur, handicap physique, et ou un handicap sensoriel. Dans handicap sensoriel, il faut entendre problème de vue, problème auditif. Et les personnes qui ont un problème psychique, handicap intellectuel qu'on appelle couramment handicap mental, trouble de l'autisme, c'est une autre fédération qui gère les activités et c'est la fédération du sport adapté.
À la maison, en voiture, au boulot, Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+.
Et du coup, au niveau des aménagements, c'est quoi les différences entre le handisport et le sport adapté ?
Eh bien, si vous voulez, le sport adapté, hormis des personnes, parce qu'il y en a qui cumulent malheureusement des difficultés et qui pourraient être polyhandicapés, mais globalement, quelqu'un qui a un handicap intellectuel, je veux dire physiquement, ça ne va pas être compliqué s'il y a une marche, s'il y a quelque chose en termes d'accessibilité, c'est pas là la plus grosse difficulté. La plus grosse difficulté, elle est dans la compréhension des consignes, etc. Voilà, et de la gestion de tout ça. En ce qui concerne le handisport, on a besoin d'avoir des aménagements, d'une part l'accessibilité, quelquefois du matériel adapté. Si on prend l'activité fauteuil électrique, par exemple, donc ce sont des personnes qui au quotidien sont en fauteuil électrique, mais pour la pratique de cette activité-là, ils ont des fauteuils spécifiques avec un pare-choc, avec un tas de choses, et ça coûte très cher. Donc on a ce coût en matériel qui vient s'ajouter. Si vous prenez des gens qui font de la course en fauteuil, en athlétisme, hein, donc vous allez, vous connaissez un fauteuil de vie, donc fauteuil classique, mais le fauteuil de course c'est un fauteuil à trois roues profilé, donc c'est du sur-mesure. Voilà, nous on a des coûts supplémentaires par rapport au matériel. Et pour ceux qui font de la compétition, si par exemple vous avez une équipe de je sais pas de basket qui va disputer un match, bon ben vous allez si vous prenez des personnes en situation de handicap mental ou des valides d'ailleurs, je veux dire ils vont remplir une voiture ou un fourgon, ça suffit. Ouais, mais nous, on a double fauteuil à mettre. On a le fauteuil de vie plus le fauteuil de sport. Donc, dans une voiture, quand on en met deux, c'est le maximum, quoi. Donc, voilà, il y a plein de choses comme ça.
Comment vous trouvez les financements pour tous ces équipements spécifiques ?
Bon, disons qu'on a quand même les collectivités territoriales ont un regard bienveillant, je dirais. Quand même le reconnaître, hein. Il y a un regard bienveillant par rapport aux critères d'attribution de subventions. Et puis on essaie de rechercher aussi, on est très vigilant sur les dépenses, quoi. Il faut faire très attention. On essaie de regrouper, de mutualiser, des choses comme ça. Mais il y a quand même ce surcoût qui existe. Ça, c'est une réalité.
Vous dites que les collectivités sont bienveillantes. Est-ce que c'est le cas de la société en général ?
C'est deux choses différentes. Là, quand je dis c'est par rapport au soutien qui est apporté au mouvement sportif sur un plan très général. En ce qui nous concerne, nous, il y a un regard, parce qu'il y a des critères qui sont bien, bien déterminés. Je dirais que pour ce qui concerne Handisport, j'ai pas la connaissance au regard du sport adapté, mais je pense qu'ils ont aussi, il y a aussi une écoute très attentive par rapport aux besoins qui sont requis, quoi. Bon, la société, elle évolue. On essaye d'y contribuer un petit peu au travers des actions de sensibilisation que l'on fait. Mais bon, elle évolue. La société, ce sera peut-être jamais complètement parfait, mais on améliore des choses quand même.
Vous diriez que le regard de la société sur le handicap, même en dehors du sport, il est plutôt bienveillant.
Oui, il l'est de plus en plus, je dirais quand même. Enfin, le fait de voir aussi de plus en plus de choses, le rôle des médias dans cette évolution n'est pas neutre non plus. Hein, quand on ne connaît pas, on découvre des choses, on peut être perplexe, et puis bon, à force de voir que les gens ils arrivent à faire un tas de choses, ça modifie un petit peu la perception que l'on peut avoir.
Radio Laser, média citoyen de proximité sur le 95.9 FM et en DAB+.
Le rôle des organismes comme le comité Handisport, il est très important puisque vous disiez, vous faisiez des interventions dans les écoles par exemple pour éduquer.
Éduquer, c'est sensibiliser, je préfère ce terme-là quand même. Notamment là, depuis qu'on prépare donc Paris 2024, on a un certain nombre de communes qui ont été labellisées Terre de Jeux Paris 2024, donc on reçoit beaucoup de sollicitations et on a priorisé les établissements, etc., qui sont dans ces territoires. Moi, j'interviens également aussi pour témoigner sur mon parcours et tout ça, parce que on peut faire tous les discours que l'on veut. Je crois que quand on a des gens qui ont vécu les choses, qui sont concernés, ça donne un petit plus aussi. Donc, j'essaye de répondre favorablement aussi souvent que possible. L'agenda, il est bien rempli, mais c'est comme ça, voilà.
Vu que vous êtes en situation de handicap, vous vous sentez obligé de faire cette sensibilisation ?
Non, je le fais parce que j'aime bien aussi le contact, j'aime bien tout ça. Donc, si je suis pas disponible, je suis pas disponible. J'ai des contraintes, j'ai encore des engagements associatifs, j'ai aussi ma vie privée. Donc, je veux dire, on essaye de faire en sorte d'être présent aussi souvent que possible dès l'instant où on peut l'être, quoi.
En dehors de votre carrière olympique, est-ce que vous avez un travail ou est-ce que c'était votre travail d'être athlète professionnel ?
Oula, j'ai commencé le sport quand j'ai commencé à travailler et je n'ai quitté l'entreprise qu'il y a quelques années pour prendre officiellement ma retraite professionnelle, on va dire les choses comme ça. Non, on n'est pas professionnel. Maintenant, il peut y en avoir qui peuvent trouver des partenaires et qui peuvent donc se préparer dans de meilleures conditions, on va dire les choses comme ça. Non, moi j'avais ma journée de travail, je commençais de bonne heure le matin pour terminer un peu plus vite puisqu'il y a un temps à faire et ensuite je partais ou sur des entraînements ou sur le volet responsabilité associative quoi. Non, j'étais loin d'être professionnelle. Hein. Loin de là. Et j'avais besoin absolument de travailler pour vivre, il n'y a pas de mystère, hein. C'est un besoin alimentaire.
Du coup, il n'y a pas de récompense en argent quand on gagne une médaille olympique ?
Les premiers jeux que j'ai pu faire... Alors, il faut savoir que pour les valides, il y a des primes à la médaille. Quand on rentre des Jeux olympiques... Enfin, quand sur les Jeux olympiques, on fait un podium, il y a une valorisation. C'est décidé par l'État. Hein, il y a un certain montant pour une médaille d'or, un autre montant pour une médaille d'argent, un autre pour une médaille de bronze. Chez nous, on en dit sport, on a commencé à avoir des primes à la médaille en 96, mais d'un montant complètement dérisoire par rapport à ce qu'avaient les valides. Mais bon, ça commençait, voilà. Et puis en 2000, ça a été un petit peu plus. En 2004, un petit peu plus. Et depuis 2008, le montant est identique pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques.
Et est-ce que ce montant permet de vivre uniquement du sport ?
Après, moi, je réponds... ça facilite quand même, ça facilite. Est-ce que ça permet de vivre je ne le dirais pas comme ça, parce que si on reste dans la course, hein, si on continue, si on est toujours en équipe nationale, je veux dire qu'il y a des tournois à l'étranger, il y a quand même un tas de choses. Suivant les sports, il peut y avoir aussi des frais en matériel, en équipement. Donc, ça apporte de l'oxygène, ça c'est clair. Mais là, je ne me prononcerai pas à autre mesure parce que les besoins sont différents d'un sport à l'autre, etc. Mais c'est clair que accéder au podium et percevoir une prime de ce fait-là, ça aide pour un certain nombre de choses, c'est évident.
Et aujourd'hui, on peut voir des athlètes qui sont sponsorisés par des marques, notamment pour l'équipement. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour le sport paralympique ?
On a des marques partenaires. Après, dans chaque sport, il y a aussi des équipementiers qui vont soutenir telle ou telle activité. Bon, mais c'est le soutien, il est en équipement. Il n'est pas en monnaie sonnante et trébuchante, c'est la Fédé qui aura, donc voilà. Et après, il peut y avoir je suis un petit peu moins au fait des choses, mais ça peut, dans certains sports, c'est peut-être aussi qu'il y a des équipementiers qui versent une enveloppe, il y a des contrats, des choses comme ça, c'est possible dans certains sports, mais enfin, ça, c'est relativement limité. Comparé à ce qui peut se faire dans le monde valide. Ça reste limité de mon point de vue.
Vous avez récemment reçu la Légion d'honneur pour notamment votre engagement associatif. Qu'est-ce que ça fait de recevoir une telle récompense ?
Alors, je précise que c'était une promotion dans la Légion d'honneur parce que la Légion d'honneur, je l'ai eue en 96. Le premier degré, parce qu'il y a plusieurs degrés. Je l'ai eu puisque le président Chirac, qui était donc au pouvoir à ce moment-là, c'est lui qui a mis en place cette décoration pour les sportifs qui rentraient des Jeux avec une médaille d'or. Pour la médaille d'or, c'était la Légion d'honneur. Comme c'était en 96 et moi à Atlanta, j'ai fait la médaille d'or, donc j'ai eu le premier grade chevalier à ce moment-là. Et à ma grande surprise, donc j'ai été promu au 14 juillet 2022 officier, donc c'est le grade au-dessus. Et cette remise d'insigne s'est faite là au mois de juillet dernier. J'étais très très contente. C'est quand même un honneur, c'est le premier ordre national quand même. Il y en a tant qui voudraient sans doute l'avoir. Donc non, j'étais très contente de cette distinction. Voilà, c'est une très très belle reconnaissance pour le parcours, pour mon parcours, notamment au niveau des engagements associatifs, puisque c'était plutôt de par rapport aux engagements associatifs.
Est-ce qu'aujourd'hui, on vous parle encore beaucoup de votre carrière sportive ?
On en parle sur les grands événements, donc ça a été l'occasion effectivement de revenir un petit peu sur le parcours. Bon, on n'en parle plus tant que ça, quand je vais ici témoigner, on évoque un petit peu ça en local, mais non, il y a un temps pour tout, place à ceux qui sont dans l'action actuellement quand même, hein, mais de toute façon, quand on est championne paralympique, on l'est à vie, donc voilà, ça, même si on essaye de remettre le titre en jeu 4 ans après, de toute façon, l'a été et on le reste à vie. Donc, voilà.
Aujourd'hui, vous pratiquez toujours le tennis de table ?
Je l'ai pratiqué jusqu'en 2017 et j'ai dû arrêter contraint, forcé, on va dire, parce que j'aimais bien. Et là, j'allais faire les compétitions pour les vétérans à l'international aussi, ce que j'aimais beaucoup. Mais j'ai un souci à la bonne épaule. Et donc, je me dois de préserver mon bon bras, parce que si à un moment donné, ça ne veut plus le faire avec ce bon bras, ben, l'autre, ce n'est pas possible. Et là, j'essaye de faire très, très attention pour pour garder mon autonomie au maximum.
Et même de votre côté, vous pratiquez plus du tout ?
Alors je ne pratique plus, ni en compétition ni rien. Bon, j'accompagne le groupe tennis de table du club. Je l'accompagne encore, je suis toutes les semaines avec eux. Bon, je suis plus en début d'année sur le volet administratif. Ça m'arrive un petit peu, quelquefois, de taper la balle pendant un quart d'heure. Ben, c'est pas violent. Donc voilà, mais je fais très attention.
Par rapport à votre handicap, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça vous permet de faire ou non dans la vie quotidienne ?
Alors bon, mon handicap, ça c'est un plexus brachial, donc un accident au moment de la naissance, hein, de l'accouchement. Donc ça se traduit par une paralysie complète du bras. Donc j'ai dû apprendre à tout faire de la main gauche, à compenser par rapport à ce que j'aurais dû faire avec les deux mains. Voilà, donc globalement, j'arrive... Bon, je suis autonome, hein, pour faire énormément de choses quand même. Ben, quand il s'agit de porter, eh ben, ça pose problème. S'il faut deux mains, c'est clair que c'est pas possible. Voilà, donc j'arrive quand même à faire pas mal de choses.
Vous avez toujours accepté ce handicap ou ça a été dur à un moment ?
Ben, le fait que j'ai grandi avec... Je dis pas que ça me faisait forcément plaisir, mais le fait d'avoir grandi avec a fait en sorte que je n'ai pas connu de situation autre. Et donc, ben voilà, il a fallu que je m'adapte. Et puis, voilà. Hein. Et donc, moi, je dirais quelquefois que j'avais un peu la double peine dans le sens où il faut s'adapter, il faut compenser parce qu'il y a un bras qui peut pas travailler. Et puis, ben, comme c'est le bras gauche qui a fonctionné, ben, tout n'est pas fait pour les gauchers, hein. Voilà. On se débrouille quand même, mais tout n'est pas fait pour les gauchers.
Et est-ce que vous avez déjà subi des moqueries ou des paroles malveillantes ?
Non, pas spécialement. Allez, je me souviens à l'école primaire, j'ai jamais eu de problème parce qu'on dit quelquefois les enfants sont un peu durs entre eux. J'ai pas de soucis. S'il y en a eu, ça s'est fait dans mon dos. Donc, c'est bon. Puis je crois que... On apprend, on s'aguerrit de certaines choses et on apprend à réagir. À partir du moment où le problème il est là, je savais qu'on ne ferait pas marche arrière. Une situation telle que la mienne, à l'heure d'aujourd'hui, on a des soins qui peuvent être proposés. Les familles les acceptent ou pas, mais je sais qu'il existe des autogreffes qui permettent par exemple, de prendre du nerf dans notamment c'est au niveau des jambes. Et après, on relie les parties qui défectueuses. Donc voilà, ça permet de récupérer un petit peu, pas complètement de toute façon. Puis il y a tout un suivi derrière. Et ça se fait dans les tout premiers mois de la vie. Voilà, donc moi, on m'avait proposé une intervention à l'adolescence pour redresser un petit peu le bras. J'ai dit, c'est bon, jusque-là, j'arrive à faire, on va pas aller chercher autre chose. On peut pas... La problématique, c'est irréversible, donc il vaut mieux essayer de l'accepter, même si, On ne fait pas tout à fait tout ce qu'on voudrait, mais voilà.
Du coup, c'est vos parents qui avaient refusé la greffe
Ça n'existait pas à l'époque.
Ah, d'accord. Okay.
Ça n'existait pas. Donc, il n'y avait même pas... Non, ça n'existait pas. Donc, le problème ne s'est même pas posé. Mes parents, je sais qu'ils ont fait le maximum de ce qu'on leur a conseillé à mon égard. De la kiné, différentes choses. Voilà, donc... À partir du moment où on a essayé de tenter ce que le médecin proposait, etc., bon, ben voilà, on ne peut pas avoir de... Enfin, eux, à leur niveau, n'avaient pas à avoir de regrets particuliers par rapport à ça, quoi, hein, s'entend. Ils ont fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là.
À la maison, en voiture, au boulot, Radio Laser. Sur le 95.9 FM et en DAB+.
Quand on souffre d'un handicap, est-ce que ça signifie qu'on doit se priver de certaines choses ?
Je veux dire, non, pas nécessairement. Alors, se priver, enfin, le terme, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, voilà, on ne peut pas les faire. Ben, voilà, c'est comme ça. Hein. Mais, bon, moi, je dirais que quelque part, je me suis peut-être plus orientée vers quelque chose qui me convenait, c'est-à-dire le sport et tout ça. Et puis, j'y ai trouvé aussi bien des satisfactions. On ne peut pas être partout, hein. On a ces centres d'intérêt, donc moi j'ai eu beaucoup de satisfaction par rapport au sport.
Parce que par exemple, pour les personnes en fauteuil roulant, tout n'est pas adapté.
Ah, mais,
du coup, ça signifie de se priver par exemple d'un concert si...
Ah ben, quelquefois ça peut arriver, même si maintenant on a quand même de plus en plus de choses qui sont accessibles, mais tout ne l'est pas nécessairement. Quand on prend du bâtiment ancien, des choses comme ça... Ben, je veux dire, on peut. Ce qui se construit, on le fait accessible. C'est obligatoire d'ailleurs. Mais quand il faut retoucher certains bâtiments qui accueillent du public, etc., tout n'est pas aussi facile et ça va pas aussi vite qu'on voudrait. C'est vrai. Mais effectivement, puis même, je veux dire, quelqu'un qui est en fauteuil, si on veut aller se promener sur des sites, etc., ben, l'accès n'est pas toujours facile, quoi. Hein. Donc, bon, voilà, ça c'est comme ça, quoi.
Pour les Jeux Olympiques, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait un endroit qui soit inaccessible pour des personnes, par exemple, en fauteuil roulant ou...
Ah ben, depuis que je les pratique, moi, non, c'est une obligation, hein, c'est dans le cahier des charges quand même. Hein. Donc, à une époque, les épreuves paralympiques ne se déroulaient pas nécessairement dans les mêmes installations que les épreuves olympiques. Pour différentes raisons, d'ailleurs, et ça en faisait sûrement partie. Maintenant, ce sont dans les mêmes lieux, et souvent ce sont des équipements neufs, d'ailleurs. Mais c'est obligatoire, maintenant. Et dans le village, il y a des aménagements, enfin, des plans inclinés, toutes ces choses-là. Enfin, sinon, ça n'a plus de sens. Hein.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez fait de votre handicap une force ?
Ben, je sais pas, je laisse plus aux autres le soin de l'évoquer. Bon, quelquefois, j'ai entendu des choses un petit peu dans ce sens. Bon, je laisse plus aux autres le soin de... Moi, j'ai essayé, bon, avec les moyens qui étaient les miens, de faire des choses qui me plaisaient, voilà. Donc,
Vous n'êtes jamais empêché de faire ce que vous aviez envie, ce que vous aimiez
Non, d'une certaine façon, j'ai essayé de faire au maximum. Bon, sachant que pendant toute la période où j'étais quand même en équipe de France, il y a quand même un certain nombre de contraintes, de compétitions sportives et tout ça. Et le temps qu'on est au sport, on n'est pas ailleurs. Donc voilà.
Merci beaucoup, Madame Sévin.
C'est moi qui vous remercie.